Bonjour, bonjour, bienvenue sur nos ondes locales. Nous sommes ravis de vous retrouver. Eh bien, voici une nouvelle saison des Chroniques du passé. C'est la sixième. Et qui est là? Eh bien, c'est Rémi, l'auteur de la chronique. Bonjour Rémi.
Bonjour Martine, bonjour à tous. Septembre, les écoliers ont déjà repris le chemin des écoles. Nous évoquons ce thème?
Oui, tout à fait. Nous allons revenir sur l'histoire de l'enseignement primaire depuis plus d'un siècle et demi, se remémorer les dates qui ont modifié le rythme des années scolaires. Nous ouvrons notre dossier après avoir écouté une comptine d'Annie et Jean-Marc Versini qu'on appelle « C'est la rentrée ».
C'est la rentrée des classes, toute l'école est en fête. C'est la rentrée des classes, pour tous les enfants c'est la fête.
Dans le préau de l'école, on s'amuse et on rigole.
On retrouve ses copains et tout ce qu'on aime bien.
Ensemble, nous évoquons l'enseignement primaire qui a pris une nouvelle dimension grâce à la Troisième République en 1881 et 1882 avec les lois du ministre Jules Ferry.
Ces lois ont institué la gratuité, la laïcité et une obligation qui s'appliquent aux enfants de 6 à 13 ans. La mémoire collective a un peu oublié l'un de ses prédécesseurs, Victor Duruy. Ce futur ministre est né à Paris le 11 septembre 1811 dans un milieu modeste. Grâce à ses études, il devient un homme politique et un historien brillant. Il a condamné le coup d'État du 2 décembre 1851. Son anticléricalisme entrave sa carrière, mais Napoléon III, qui se passionne pour l'histoire de Jules César, le contacte pour avoir son avis. Bien qu'opposés, les deux hommes s'apprécient, et Napoléon III engage Victor Duruy comme secrétaire personnel en 1861.
Lorsque le Second Empire devient plus libéral en 1863, Napoléon III le nomme ministre de l'Instruction publique.
C'est un bel aboutissement et son action a marqué l'histoire de l'enseignement, du primaire au supérieur. Dès sa nomination, il lance plusieurs enquêtes. Un enfant sur 5 ne fréquente pas l'école. Mais beaucoup de communes n'ont pas d'école. Il s'intéresse à l'instruction des conscrits, ces hommes recensés en vue du service militaire. Il constate que trop ne savent pas lire ni écrire. L'enquête de 1864 révèle que l'Ain se classe au 30e rang des départements français.
Précurseur, Victor Duruy souhaite la gratuité et l'obligation de l'instruction entre 7 et 13 ans, filles et garçons.
Au Parlement, son projet est attaqué, tant par les républicains qui le trouvent trop modéré, que par les cléricaux qui combattent la perte d'influence de l'Église. D'autres dénoncent le coût d'une telle réforme. Le gouvernement s'inquiète et Victor Duruy a une belle réponse. Je la cite. « La France dépense 25 millions pour une préfecture, 50 ou 60 pour un opéra, et elle ne peut en dépenser 7 ou 8 pour l'instruction du peuple. »
Il obtient gain de cause?
Oh, presque. Les débats aboutissent à la loi du 11 septembre 1867. Qui impose à toute commune de plus de 500 habitants de se doter d'une école publique pour les filles, qui peut être une section au sein de l'école communale. Le salaire des instituteurs et des institutrices est revalorisé et pour les programmes, l'histoire et la géographie deviennent des matières obligatoires. Enfin, le contrôle de l'État est renforcé sur les écoles privées.
Que manque-t-il pour que Victor Duruy soit pleinement satisfait ?
Il aurait aimé établir une école primaire gratuite et obligatoire pour tous les enfants. Néanmoins, sa loi de 1867 marque un tournant décisif pour un enseignement ouvert à toute la jeunesse sous les auspices de l'État, incitant à la gratuité et à l'enseignement féminin.
Il faudra attendre 15 ans pour atteindre ce but. Entre-temps, le Second Empire aura succombé à Sedan en 1870, et la Troisième République s'installera progressivement. Le débat sera ensuite repris par Jules Ferry.
Toujours, et en effet, les lois de Jules Ferry instituent la gratuité de l'enseignement en juin 1881 et rendent obligatoire l'enseignement pour les enfants des deux sexes de 6 à 13 ans le 28 mars 1882. Même si ces lois sont l'aboutissement d'un débat antérieur, elles ouvrent une ère nouvelle. À la campagne, les parents sont obligés d'envoyer leurs enfants à l'école alors qu'ils préféreraient les voir participer aux tâches ménagères ou travailler dans les champs.
Ces lois s'appliquent à partir de 1882. Comment se déroule la rentrée scolaire ?
Eh bien, pour l'année 1882, le ministère l'a fixée au 2 octobre, mais localement, le maire de Bourg-en-Bresse la décale au lundi 9 octobre. La semaine comporte 5 journées pleines et le jeudi est libéré afin, je cite, de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse en dehors des édifices scolaires.
Une différence entre les filles et les garçons ?
Selon l'article 1er de la loi du 28 mars 1882, le programme est identique pour les élèves jusqu'au dernier alinéa où les garçons ont des exercices militaires et les filles des travaux à l'aiguille. Dans les écoles mixtes de village, ces derniers sont assurés par une dame désignée par le préfet. Nous avons évoqué des exercices militaires, mais les bataillons scolaires, eux aussi institués en 1882, ne s'inscrivaient pas dans le cadre scolaire.
Un événement particulier se déroule pour cette rentrée.
C'est l'année de la Grande Comète, comme on l'a appelée. Elle apparaît en septembre 1882 et elle est visible, même en plein jour et près du soleil, grâce à son noyau très brillant. Elle a intéressé tous les gens, enfants et adultes, jusqu'à la fin du mois de février. Mais à l'époque, les scientifiques n'ont pas déterminé son retour probable.
Peu après, une nouvelle disposition est ajoutée.
Une loi du 20 mars 1883 impose aux communes l'obligation de pourvoir à l'établissement d'écoles, non seulement au chef-lieu de la commune, mais encore dans les hameaux ou centres de population éloignés du dit chef-lieu ou distants les uns des autres de 3 km et réunissant un effectif d'au moins 20 enfants d'âge scolaire.
Et c'est là que nous retrouvons le ministre Victor Duruy.
Oui, sa loi du 10 avril 1867 cite pour la première fois les écoles de hameaux. Les communes peuvent en demander la création auprès du Conseil départemental de l'instruction publique. Nous avons plusieurs exemples, comme à Dinguier, hameau de Coligny, à Montmerle, hameau de Tréfort, ou encore à Durlange, hameau de Saint-Étienne-du-Bois. Là, les formalités administratives ont été rapides. La demande a été effectuée en juillet 1867. Et l'école ouvre en novembre 1869 pour 19 élèves de Saint-Étienne-du-Bois et 24 de Viriat. Les deux communes ont été associées dans ce dossier.
Il y a des cas particuliers ?
Avant cette loi de 1867, des hameaux avaient pris l'initiative de créer et de financer leur école, comme à Cuet, hameau de Morvel-en-Bresse, ou au Rippe, hameau de Certines. Le ministère est intervenu pour les légaliser dans le cadre de la loi et permettre aux institutrices d'avoir le même salaire que leurs consœurs. Ces créations s'accompagnent de multiples anecdotes et nous invitons nos auditeurs à les lire sur le site des Chroniques de Bresse, partenaire de cette émission.
L'école est obligatoire, mais cette règle est-elle appliquée à la campagne ?
Les enfants représentent une main-d'œuvre importante pour les travaux des champs. Ils fréquentent l'école lorsqu'ils sont moins nécessaires, c'est-à-dire de la Toussaint à Pâques. Avant ou après, ils ne font que des apparitions épisodiques selon les circonstances. La situation va s'améliorer progressivement.
L'apprentissage de la langue française progresse néanmoins.
L'école en est bien sûr un des facteurs, mais pas le seul. Cela se fait par la nomination des enseignants en dehors de leur région d'origine. Et pour que chacun se comprenne, l'usage du français s'impose, car les patois diffèrent d'un lieu à un autre. C'est un patrimoine qui s'éteint. Mais la multiplication des échanges ou le brassage dans les casernes sont d'autres facteurs décisifs du recul des patois.
Nous n'avons pas évoqué les vacances. Comment étaient-elles programmées ?
À l'origine, elles étaient peu nombreuses. Globalement, un jour pour les fêtes, le 14 juillet, la fête patronale du village et une semaine à Pâques. Les vacances d'été sont fixées par le conseil départemental, en principe 6 semaines. Elles débutaient après les examens et la remise des prix. Le certificat d'études se déroulait fin juillet. La remise des prix suivait et les vacances commençaient vers le 10-15 août pour se terminer fin septembre.
Ces principes restent en vigueur jusqu'à la Première Guerre mondiale où les écoles de l'Ain connaissent des bouleversements.
Dès la déclaration de guerre, le département accueille les « entre guillemets bouches inutiles », des mots terribles pour désigner les femmes, enfants et vieillards, délogés de la place forte de Belfort pour ne pas gêner les militaires. Ainsi, nos écoles accueillent de nouveaux écoliers. Cela se passe plutôt bien, sauf en quelques lieux, à cause du choc des cultures. Ces réfugiés repartiront en 1915-1916, mais d'autres arriveront.
Les vacances d'été sont modifiées après cette guerre.
Un arrêté de juillet 1922 accorde 2 mois de vacances, en août et septembre, à toutes les écoles primaires. En 1925, 2 semaines de vacances sont accordées pour Noël et Pâques. Après l'instauration des congés payés par le Front populaire en 1936, les vacances scolaires sont avancées de 15 jours en 1938 pour mettre en harmonie ces vacances avec les congés des parents. Peu après, les vacances sont harmonisées par les établissements du premier et du second degré.
Survient la Seconde Guerre mondiale.
Eh oui. Les Allemands arrivent en juin 1940 à Bourg-en-Bresse. Et au début de juillet, les épreuves du certificat de fin d'études se déroulent dans une ville encore occupée. Il y aura bien d'autres bouleversements, des années scolaires écourtées, dans une période de fortes restrictions où tout manque. Bien des écoliers se souviennent être allés à la chasse au Doryfort pour préserver les pommes de terre.
La vie scolaire reprend son cours dès 1945, avec toujours des semaines de 5 journées entières, entrecoupées de jeudi jusqu'en 1959.
Les vacances d'été sont décalées de 2 semaines. Elle commence le 1er juillet et se termine le 15 septembre. L'année scolaire, de 37 semaines, est aménagée en 3 trimestres équilibrés.
La période d'après-guerre est favorable à l'économie. La société évolue et les loisirs prennent de plus en plus d'importance, notamment pour les sports d'hiver, dynamisés par les Jeux olympiques de Grenoble en 1968.
1969. La durée hebdomadaire de la scolarité passe de 30 heures à 27 heures. Et les enfants ne vont plus à l'école le samedi après-midi. Pas les maîtres, qui doivent consacrer cette demi-journée à leur, entre guillemets, perfectionnement pédagogique, selon la circulaire ministérielle. Après des essais, dès 1970, 3 zones géographiques sont mises en place en 1972 pour les vacances scolaires, sauf pour l'été. Toujours en 1972, la coupure est avancée du jeudi au mercredi pour un meilleur équilibre de cette semaine-là.
Samedi matin ou mercredi matin ? Semaine de 4 jours et demi ou semaine de 4 jours ? Toujours des débats et des évolutions à partir des années 1990-2000.
Dans notre historique, nous sommes restés dans les généralités, sans entrer dans les détails des diverses circulaires. Et bien sûr, les débats ont continué, des modifications ont été apportées sans s'inscrire dans la continuité. Chaque ministre a voulu marquer son passage rue de Grenelle. Il y a eu 10 ministres de 1958 à 1968. Et maintenant, nous en sommes à 6 ministres en 2 ans.
Sur ce constat, nous terminons notre chronique par une chanson.
Oui, c'est un hommage aux instituteurs et institutrices, interprétée par Patrick Bruel. Écoutez le texte de l'Instit. Merci Jimmy pour cette technique et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Au revoir Rémi, au revoir à tous.
Elle enseignait les numéros et les couleurs de l'arc-en-ciel, comme autant de petits barreaux pour se construire une grande échelle. Elle leur a donné l'ABC, leur offrait des récitations à tous ces enfants mal armés en guise de petites munitions. Elle leur parlait de tous les livres, elle leur a appris toutes les lettres pour devenir des hommes libres et se fabriquer des fenêtres. Et même le dernier des cancres, écoutez la chartreuse de Parme, elle disait qu'une main tachée d'encre est une main qui ne tiendra pas d'armes. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami. Elle avait ce rêve un peu fou qu'un livre peut changer une vie. Et qu'il n'y a de voyous que des gens qui n'ont rien appris. Aujourd'hui je repense à elle, à toutes les vies qu'elle a changées, avec ses consonnes, ses voyelles et toutes les phrases qu'elle a semées. Je la revois à son bureau, la tête penchée sur le côté, en train de réparer leurs mots comme on soignerait des blessés. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami. Elle avait ce rêve un peu fou qu'un livre peut changer une vie. Et qu'il n'y a de voyous que des gens qui n'ont rien appris. Cette maîtresse, c'était ma mère, de l'avoir un peu partagée. Je me sens riche de sœurs et frères que je n'ai jamais rencontrés. Fleurs libres et fleurs sauvages, que la vie puisse les arroser d'amour, de savoir et d'ouvrage, en tout qu'un jardin de pensée. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle avait ce rêve un peu fou qu'un livre peut être un ami. Peut-être un ami. Peut-être un ami. Un ami. Peut-être un ami. Peut-être un ami. Peut-être un ami.